Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes aujourd'hui avec le professeur d'histoire et chercheur Dimitri Vouzel pour parler d'un événement important qui a eu lieu à la synagogue de Dijon le 24 avril 2026. Il s'agissait de l'inauguration de deux plaques commémoratives dont le professeur va nous parler tout de suite, qui sont liées à la déportation à Dijon.
Oui, donc bonjour. Donc oui, c'est des plaques. Alors, on ne connaît pas exactement le moment où elles avaient été inaugurées, parce qu'on n'a pas pu retrouver avec Izzy la date précise de l'inauguration des plaques. On imagine qu'elles ont été faites dans les années 1950, peut-être 1960. Alors pourquoi on les date dans ces deux décennies éventuellement? Parce qu'en fait, les plaques portent un peu la marque de leur époque. C'est-à-dire que sur ces plaques, on n'a pas distingué spécifiquement. On a mis sur ces plaques à la fois ceux qui sont morts en déportation, mais on a mis aussi ceux qui sont morts de par leur engagement militaire, donc ceux qui sont morts dans la campagne 39-40. On a mis aussi celui qui a été fusillé en tant que résistant. Donc il y a un peu un mélange en fait de cas, de parcours plutôt différents.
Si j'ai bien compris, il y a une plaque qui a été refaite complètement et une autre qui a été simplement améliorée.
Oui, donc la plaque de gauche, il y avait seulement deux choses à revoir. C'était juste une question d'orthographe. Il y avait un nom, par exemple, qui concerne un déporté de Chenôve, où il y avait simplement son nom Kingsburg qui était écrit et pas son prénom. Donc le graveur a rajouté Roger. Par contre, la plaque de droite, il y avait une dizaine d'erreurs. Donc il y avait des erreurs, là encore, d'orthographe. Mais il y avait surtout aussi des absences. Par exemple, il y avait écrit Marx, Madame, et non pas son prénom. Donc le graveur a rajouté Adèle. Il y avait des erreurs de nom. Il y avait par exemple quelqu'un qui était dénommé Ricard, alors qu'en fait il s'appelait Picard. Voilà. Il y avait des erreurs d'orthographe. Il y avait également, par exemple, là c'est plus grave, il y avait écrit Salme Mathilde, alors qu'en fait elle n'a jamais été déportée. C'est son mari, Arthur, qui a été déporté. Donc voilà, il y avait des problèmes quand même plus graves, je trouve. Et c'est pour ça qu'il était certainement utile de rénover, on va dire, ces plaques.
Avant de revenir sur le contenu des plaques et le sens fondamental que vous donnez à ce travail, à votre travail d'historien et de citoyen, peut-être dire que c'était lié aussi à la journée nationale du souvenir de la déportation, puisque après cette inauguration, on a eu une commémoration, on va dire, traditionnelle, habituelle pour concernant ce souvenir de la déportation. Il y avait donc les autorités, l'ensemble des autorités, ainsi que la communauté juive de Dijon, qui était représentée notamment par son président, Israël Semachovitch, président donc de l'association culturelle israélite de Dijon. Voilà. Donc si on revient sur les plaques, peut-être nous parler du sens de votre démarche, en rappelant tout simplement que vous traitez de cette question-là, notamment en tant qu'historien, puisque vous avez écrit un livre important sur ces questions, qui s'appelle « Être juif en Côte d'Or », qui est paru il y a très peu de temps, donc sur la période 1933 à 1952, d'ailleurs date intéressante, puisque d'habitude on arrête souvent les travaux à 1945 ou 1946.
Oui, alors le sens de la rénovation, en fait, il est double. Ces plaques, elles s'inscrivaient et elles s'inscrivent dans une forme de résistance, on va dire. C'est dans ce sens-là qu'elles ont été, je pense, mises en place à la synagogue dans les années 50 ou 60. Une résistance par rapport au but des génocidaires, parce que le but des génocidaires, c'est d'effacer jusqu'au nom des victimes. Donc les plaques, ça met au moins le nom des victimes, donc c'est une manière de combattre cela. Et puis l'autre point, c'est que les rénover, c'est aussi montrer que la recherche historique, c'est un processus qui est en mouvement, c'est pas un processus qui est figé. On en parlera peut-être en ouverture, mais il faudrait certainement une troisième plaque d'ailleurs, pour rajouter encore des noms, puisque là elles sont complètes les deux, on ne peut pas en mettre d'autres. Donc c'est cette idée de se rappeler. Je rappelle qu'il y a des lieux de mémoire et d'histoire de la Shoah où par exemple... peut-être que les auditeurs ont visité pour certains d'entre eux la caserne, le musée de la caserne d'Ossin qui est donc à Malines. Pour faire simple, ça correspond aux Drancy belges. En fait, c'est là qu'étaient regroupés les Belges juifs avant d'être déportés. Et donc, dans ce musée de la caserne d'Ossin qui a été rénové il y a à peu près une dizaine d'années, il y a une pièce qui est dédiée en fait à la lecture des noms des victimes. C'est-à-dire que quand vous entrez dans cette pièce, il n'y a pas d'objet particulier. Par contre, vous entendez une voix, et cette voix lit les noms. Hein, donc, à la fois graver les noms, lire les noms, c'est montrer qu'en fait, les génocidaires n'ont pas atteint leur but, puisqu'on se rappelle encore et on parle des personnes qui ont été malheureusement assassinées. Ça correspond aussi un peu avec tout ce qu'il y a dans tous les musées et tous les lieux de souvenirs des photographies. En fait. Photographier, avoir la photographie, avoir le nom, c'est vraiment combattre l'objectif des génocidaires.
D'autant plus qu'aujourd'hui, cet événement suit la logique de la recherche historique et de la volonté de se souvenir et de faire revivre les personnes, surtout dans une période qui est très particulière, où on entend à nouveau des gens dénier l'existence même des chambres à gaz, puisqu'on a un retour du refoulé qui avait, en tout cas, qui avait été masqué, qui avait disparu, disons, de l'opinion publique ou des médias.
Oui, c'est vrai. Donc ça contribue aussi à une œuvre citoyenne, en plus d'être une œuvre effectivement historique. Mais je rappelle encore que c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc il y a peut-être d'autres noms à rajouter. D'ailleurs, il y a la question de savoir quel nom on indique dessus, parce qu'en réalité, quand on regarde les plaques en détail, on se rend compte que il y a des noms qui sont inscrits avec des personnes qui n'ont pas été déportées de Dijon, qui n'ont pas été déportées de Côte d'Or. Je pense par exemple au couple Veller. Le couple Veller, ce sont des Parisiens. Ils sont arrêtés à Paris, donc ils n'ont pas été dans la Shoah à Dijon. Mais ils ont été inscrits lorsque les plaques ont été faites, parce qu'en fait, leur fille qui a survécu ensuite est venue s'installer à Dijon. Et ils avaient de la famille à Dijon. Donc, ça a été un moyen pour eux, c'était un lieu peut-être de recueillement, d'inscrire ces noms. Il y a d'autres noms qui ont été ajoutés, il y en a 5. Hein. Donc, la rénovation a permis d'ajouter 5 noms de déportés. Je peux les citer, il y a Julien Israël, il y a Pierre Freidenberg, qui lui est un Bonnois. Mais il y avait déjà des Bonnois sur la plaque. Hein. Il y avait les frères Spira, par exemple. Donc, ça avait du sens de rajouter Pierre Freidenberg. Roger Daltroff, qui lui était un Dijonais, mais qui n'est pas arrêté à Dijon, mais qui est né à Dijon, qui a vécu à Dijon, ou du moins en Côte d'Or, jusqu'à au moment où il quitte la Côte d'Or en 1942 et où il est arrêté en 1943, dans le Sud. Il y avait Manuel Lève, et puis il y avait Victor Friedrich, qui n'était pas sur... Victor Friedrich étant un de ceux qui ont été arrêtés à Dijon. Manuel Lève également. Manuel Lève, c'est un réfugié russe. Une petite anecdote intéressante avec lui, c'est que donc lui, il est arrêté en octobre, le 9 octobre 1942. Et en fait, Manuel Lève, dans l'été et l'automne 42, il y a une enquête en fait demandée par la police allemande, parce qu'il est soupçonné d'organiser le culte juif clandestin à Dijon, et donc d'organiser des offices religieux pour Shabbat. Et donc, il y a une enquête qui est demandée, sauf qu'en fait, quand on demande de faire l'enquête, il est déjà déporté. Donc, ça n'a aucun sens. Mais c'est intéressant de dire que c'est une forme de résistance pour lui. Bien sûr, il ne sera pas dans les livres d'histoire comme un résistant, mais on sait qu'il y a une résistance culturelle, et cette façon de vouloir proroger le culte malgré l'interdiction, malgré la fermeture de la synagogue. Bien sûr, ce n'était pas la synagogue, hein, c'était clandestin. C'était dans un domicile, on ne saura jamais lequel. Mais il y avait un soupçon. Et on peut imaginer que si à cette enquête il y avait une réalité, puisque ils n'ont pas inventé que Manuel Lève faisait du culte clandestin pour la religion juive.
Il y a un personnage que vous avez cité qui est intéressant, dont vous avez parlé. C'est Monsieur Pierre Friedenberg, dont l'histoire est assez originale.
Oui, alors c'est un Bonnois.
Particulière.
Donc lui, c'est un Bonnois. Donc il est né au début du siècle, et en fait c'est un artiste dramatique. Parce qu'il va remplir en 1941 sa fiche de recensement. D'ailleurs, il a rempli en retard, et il explique pourquoi. Il fait un petit courrier, hein, dans les archives, vous trouvez ça dans le fond, 1090 W36, où il y a donc sa fiche de recensement de l'été 1941, qu'il fait un peu en retard. Il explique pourquoi, parce qu'en fait, il était en prison, parce qu'il a essayé, de passer la ligne de démarcation clandestinement, et donc il était arrêté par les Allemands, et ils l'ont emprisonné. Ils l'ont condamné à quelques mois de prison, comme c'est le cas à l'époque. Et donc au terme de ces 3 ou 4 mois de prison, il a été libéré. Et là ensuite, il fait sa fiche de recensement. Et l'année suivante, en 1942, en juillet 1942, il réussit à franchir la ligne le jour de son anniversaire. Et donc ensuite, il va aller travailler pour l'UGIF, hein, l'Union Générale des Israélites de France, à Lyon. Et il sera raflé à Lyon lors de la grande rafle de la rue Sainte-Catherine en 1943, sur ordre de Klaus Barbie. Et donc, suite à cela, ensuite, il a le parcours malheureusement classique enfin pas tout à fait classique, hein, puisque lui il va à Drancy, ça c'est classique, mais ensuite il va être renvoyé, parce que Drancy, on est donc au printemps, fin de l'hiver 43, Drancy il y a beaucoup de monde, et donc comme il y a trop de personnes qui n'ont pas encore commencé à nouveau les déportations, il va revenir dans un camp du Loiret. Ensuite on le ramène à Drancy, et en mars 1943, direction Sobibor. Donc on sait qu'à Sobibor, il y a uniquement deux convois qui sont partis en direction de Sobibor, il en fait partie, et son convoi, il y a un survivant qui raconte qu'en fait, quand ils sont arrivés à Sobibor, il y a eu 15 hommes qui ont été sélectionnés, et il y a une poignée de survivants en 1945. Lui a-t-il été sélectionné parmi ces hommes? Personne ne le saura jamais. Il était avec un autre Dijonais, en tout cas, qui lui aussi a été déporté et qui est mort aussi à Sobibor.
Vous avez parlé aussi de soldats juifs qui combattaient pour la France, qui ont été tués, qui sont sur les plaques, je crois.
Oui, alors il y a trois noms. Il y a trois noms qui sont mentionnés effectivement sur les plaques. Un nom également qui est mis en exergue, qui lui aussi a combattu, mais il n'est pas mort. Lui, il est mort en déportation. C'est donc le rabbin Siper Rucha, dit Siper, hein, dont la rue fut inaugurée par l'ancien maire François Abzamen il y a de ça une dizaine d'années. Lui aussi, son nom est indiqué. Sachant qu'il a une histoire très courte avec la communauté de Dijon, puisqu'en fait il arrive en 1939, hein. Donc il arrive quelques mois avant la guerre, et quand la guerre est déclarée, il est mobilisé puisqu'il est aumônier, hein, donc il est aumônier militaire, officier aumônier militaire, donc il est démobilisé, il ne reviendra jamais à Dijon, hein, donc il est resté à Dijon en fait peut-être 6 mois, mais il a laissé une image dans la communauté, parce qu'a priori il était très dynamique. Et ceux qui l'ont connu et qui vivent encore aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns, se rappellent le dynamisme donc du rabbin Siper.
Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Dimitri Vouzel, que le travail n'était jamais terminé pour les historiens. En l'occurrence, par rapport au dossier que nous avons évoqué aujourd'hui, que ce que vous pouvez dire de la suite de ce travail, alors au-delà même des plaques, hein, mais globalement,
oui, alors,
sur cette période et...
Alors, la suite, donc... Peut-être qu'un jour, il faudra envisager dans le futur une autre plaque avec d'autres noms, parce qu'après la question c'est qui mettons sur la plaque. Est-ce qu'on met tous ceux qui sont passés par Dijon et qui ont été arrêtés? Parce que c'est aussi le cas, il y a d'autres exemples où ils n'ont pas été arrêtés Dijon, mais ils sont sur la plaque. Est-ce qu'on met ce qu'on appellerait aujourd'hui les victimes collatérales? On peut imaginer dans ce cas précis la mère de Rita Thalmann. Les Thalmann réfugiés de Nuremberg, donc Rita Thalmann, historienne du nazisme, historienne féministe, qui écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « Tout commence à Nuremberg », puisque sa famille est de Nuremberg et fuit donc les persécutions nazies, arrive à Dijon. Le père est interné au début de la guerre parce qu'il est allemand. La mère, a priori, tombe en dépression, et donc elle est hospitalisée à la Chartreuse, et elle va mourir à la Chartreuse. Alors elle n'a pas été déportée, mais on peut imaginer peut-être que le choc psychologique et la dépression dans laquelle elle est entrée est directement liée à la guerre et à tout ce que les Juifs vont subir durant l'occupation. Donc elle n'est pas sur la plaque. Bon, son mari est sur la plaque. Hein, donc, et puis un dernier point peut-être pour ouvrir, c'est qu'en fait l'année prochaine, en mars 2027,
oui,
la municipalité va poser de nouveaux pavés. Donc il y en aura 17 concernant les déportés de Dijon. Donc il y aura par exemple les frères Kahn, la rue du Vieux Collège. Il y aura Paulette Lévy, sa mère et sa sœur, donc qui était rue Nicolas Berthaud. Donc il y aura 17 en fait pavés qui seront posés en mars 2027. Et puis au même moment, il y aura aussi d'autres déportés dont les noms seront gravés sur des pavés. Donc la visibilité, puisque je rappelle que le point de départ de tout cela, c'est l'invisibilisation de la Shoah dans les rues de Dijon. Donc les premiers pavés qui avaient été posés en 2024, c'était pour mettre dans l'espace public cette réalité. Les plaques ne sont pas dans l'espace public, puisqu'elles sont à l'entrée de la synagogue, donc en fait on ne les voit pas de l'extérieur, mais elles ont un sens bien sûr pour ceux qui viennent se recueillir à la synagogue. Les pavés, eux, ils sont dans toutes les rues de la ville, où effectivement des Juifs ont été arrêtés. Donc ça continuera cette visibilisation de ce sujet d'actualité, malheureusement.
Là, il faut rappeler que vous faites partie des professeurs qui, avec leurs élèves, travaillent sur des projets pédagogiques transversaux, notamment autour de la période de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'a frappé dans les interviews et les podcasts que nous avons l'intérêt de faire avec vous, c'est que les jeunes femmes et les jeunes garçons qui viennent sont très sensibles, bon, au travail de recherche, à la connaissance, mais aussi au fait de redonner une place, une vie, un nom aux personnes. Et vous avez, lors de votre intervention à la synagogue, cité une phrase, une très belle phrase de Primo Levi. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, sinon je me permettrai de la lire, qui est tirée de son livre majeur, écrit juste après la guerre, donc « Si c'est un homme, ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Si nous voulons le conserver, nous devrons trouver la force pour que derrière ce nom, quelque chose de nous subsiste. » Monsieur Bouzel, donc, en conclusion, si on peut parler de conclusion, peut-être rappeler le travail que vous avez fait en matière de livres concernant cette période.
Oui, alors il y a effectivement Être juif en Côte d'Or, donc comme vous l'avez cité tout à l'heure. Donc là encore, c'est un travail qui peut se poursuivre. Hein, donc il y a des choses qui sont découvertes, des choses qui sont écrites, qui peuvent être affinées. Par exemple, depuis que le livre est paru, donc il y a 2 ans, j'ai retrouvé d'autres archives. Notamment, il y avait un chapitre sur les juifs et la justice. Aujourd'hui, je ne l'écrirai pas pareil, parce que j'avais évoqué quelques... actions de juifs après la guerre qui portent plainte contre ceux qui les ont arrêtés, et en fait il y en a plus. Je crois aujourd'hui à 10 en fait. Donc c'est assez représentatif, et donc ça donnera lieu à un article qui sera pour la revue La mémoire de la Shoah, donc l'histoire de la Shoah, pardon, d'ici quelques temps, puisque c'est un sujet, je pense, intéressant. Hein. Souvent les juifs sont vus que comme des victimes, bah, ils sont aussi là acteurs. Ils essaient de demander des comptes par rapport à ce qui s'est passé sous l'occupation, notamment ceux qui les ont arrêtés.
Très bien. Chers auditeurs, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, donc nous étions avec M. Dimitri Bouzel, professeur d'histoire et chercheur, avec qui nous avons évoqué l'inauguration des plaques commémoratives qui ont été restaurées et qui sont à l'entrée de la synagogue de Dijon. À très bientôt sur Shalom Bourgogne.